I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Dis-moi, monsieur Cissé, quand tu étais joueur, est-ce que tu gérais particulièrement ton image? Tu faisais appel à quelqu'un? Il y avait
Matt, ce soir Matt, tu me connais. Attends, j'ai pas d'image. Tu as eu ma coupe de cheveux.
T'en as eu plusieurs, d'ailleurs.
Mais oui, mais j'avais pas de gestion, non, j'avais pas de gestion d'image. Non.
D'accord. Non, mais écoute, je te parle de ça parce que figure-toi que j'ai rencontré un mec fascinant qui s'appelle Oussama Savani et qui gère l'image de plusieurs sportifs, ouais. Dont Edouard Mendy, le gardien de Chelsea. Et le métier est assez intéressant. Il aurait plein de choses à nous dire. Donc, je te propose de le recevoir pour un bel épisode d'Alternative Football.
Ouais, super. Allons-y.
Feu, c'est parti.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Edouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous et très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Alternative Football. Salut Monsieur Cissé.
Salut mon beau, ça va ?
Écoute, ça va pas mal et toi ?
Très bien, toi.
Ouais, je suis content.
Et toi ?
Ouais, ça va très bien, je vois pas du tout ce qui pourrait faire que je ne vais pas bien.
Alors.
En cette semaine de
mars. Ça va alors.
Et ça va particulièrement bien parce qu'on a le plaisir de recevoir Oussama Savani.
Enchanté.
Salut Oussama.
Ravi, merci beaucoup pour l'invitation, ouais. Merci à tous les deux.
Salut Oussama.
Tout le plaisir est pour nous, Oussama, on a la chance de t'avoir avec nous pour discuter d'un nouveau métier du foot dont on entend, je pense, pas mal parler, mais qu'on connaît peu. Et donc l'objet, c'est de le découvrir ici. Et bien alors, on va pas te demander de te présenter, on va te découvrir au gré de nos questions. Et la première question, la tradition ici, c'est d'ouvrir avec la problématique, un peu comme à l'école. Peut-on faire carrière sur son image dans le football ?
Je pense que c'est une réponse sur laquelle tu peux creuser. Je pense quand tu es un athlète, ou en l'occurrence là si on parle du football, tu peux pas faire carrière sur ton image parce que le plus important et ce sur quoi on te juge au quotidien, c'est tes performances sur le terrain. Peu importe le poste que tu représentes, du gardien à l'attaquant, mais c'est à quel point tu es performant sur le terrain. Par contre, ce qui peut te permettre aussi de faire des choses pendant ta carrière et après ta carrière, c'est quelle histoire tu laisses, quelle empreinte tu laisses et quelle image tu construis pendant ta carrière pour te permettre de faire aussi des choses assez intéressantes après. Donc j'aurais tendance à te dire non. Ouais. Ce qui juge et ce qui est le plus important au final, la seule et unique vérité, c'est à quel point tu es performant sur le terrain. Mais tu peux utiliser l'aura que tu as, l'influence que tu as, notamment quand tu joues dans certains clubs, notamment quand tu gagnes certains trophées, pour faire des choses intéressantes sur le point de vue de l'image.
Ouais. Alors comment tu fais si tu ne joues pas dans un grand club et que tu n'as pas gagné de titre? Comment tu vas faire? Comment tu vas gérer l'image?
Elle se gère de la même manière. Je pense juste que l'écho que tu renvoies quand tu es un joueur qui évolue dans un grand club et qui gagne de trophées est juste plus fort. Mais globalement, quand tu es un joueur qui évolue aussi dans un plus petit club avec le bassin, le tissu local, tu restes néanmoins un acteur de ta ville. Tu restes quelqu'un qui est écouté dans ta ville et donc tu as tout de même un impact et tu as tout de même un écho. Donc ça dépend juste du curseur du club dans lequel tu évolues.
Et comment toi, personnellement, tu gères ça? Comment tu fais? C'est quoi les conseils que tu donnes aux joueurs, alors, du coup? Qui n'est pas dans un grand club? Qui n'a pas encore gagné des titres? Comment tu fais? Quel conseil, mis à part de changer de coupe de jeu?
Parfois, ça
peut être ça. Ouais,
on t'a demandé de changer de coupe de cheveux. T'avais pas mal de styles de cheveux pendant ta carrière.
Non, mais ça n'a rien à voir. Si je dis ça, c'est parce que très souvent, à l'époque, t'avais les chaussures blanches ou alors, tu vois. Je remonte à un temps, il y a une quinzaine d'années, tu vois. Chaussures blanches, coupe de cheveux un petit peu atypique pour attirer l'œil. Donc, c'est pas le conseil, bien entendu, c'était de l'ironie que je te disais, mais c'est quoi tes angles d'attaque par rapport à...
Globalement, dans cet écosystème-là, aujourd'hui, et surtout lié à l'avènement des réseaux sociaux, un joueur c'est une marque. C'est une marque et c'est au-delà d'être une marque, c'est également son média. Il a sa propre plateforme d'expression. Mmh. Et forcément, tu peux faire des erreurs et tu peux faire des choses super intéressantes. Et l'outil et nous, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on essaie de développer depuis déjà quelques années, c'est de les former aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, de les former à surtout ne pas faire certaines actions, de les former aussi à un moment donné se planter parce que ça fait aussi partie des rouages, tu vois, pour apprendre à maîtriser un réseau social. Tu as aussi besoin de commettre parfois certaines erreurs. Mais globalement, je pense que nous, ce qu'on a essayé de faire, notamment depuis quelques années, c'était de les éduquer sur des sujets sur lesquels ils n'étaient pas forcément à l'aise ou des sujets sur lesquels ils ne comprenaient pas forcément. Et en plus, il y a dans le football, et nous, quand on a commencé sur cette activité-là, dans cette boîte-là, il y a 4 ans, il y avait deux générations. Tu avais la génération qui ne comprenait pas forcément les réseaux sociaux, et tu avais la génération qui a vécu, au final, et qui a été éduquée, qui est formée,
qui est
hyper connectée avec les réseaux sociaux. Et au final, les deux, ils ont des problématiques totalement différentes. La première, c'est qu'est-ce que c'est ? Donc, les anciennes générations, c'est qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ?
Tu dois les convaincre de l'utilité que ça peut avoir.
Exactement. Tu dois les convaincre de l'utilité, et tu dois les convaincre à quel point, de montrer à quel point ça peut avoir un impact extrêmement positif sur ton business. Et la deuxième, donc cette nouvelle génération, c'était à un moment donné aussi de placer le curseur au bon endroit.
Oh là, il n'y a pas que ça, il y a le foot quand même aussi.
Exactement. C'est ça. Et placer le curseur au bon endroit entre l'hyper-communication et l'omniprésence social media et la réalité de terrain. Ouais. Donc tu dois, encore une fois, placer le curseur au bon endroit entre être bon dans ta communication, mais la vérité, comme on le disait tout à l'heure, la vérité, elle est sur le terrain et il faut être surtout bon sur le terrain.
Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le côté training éducation, parce que pendant des années dans ce milieu, ce qui était géré par les clubs, c'était le fameux media training, mais qui te préparait à tes relations avec les médias un peu, enfin
langue de bois.
Qui te préparait à faire de la langue de bois. L'important, c'est les 3 points. Aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'il y a une surexposition via les réseaux sociaux, les clubs sont plus forcément soit staffés, soit compétents pour accompagner les joueurs dans leur utilisation de ces médias-là. Ce que tu nous dis, en fait, c'est que toi, tu prends le relais à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'image du club, j'imagine que les clubs avec qui tu travailles, tu pourras nous en dire plus, ils font leur travail de média training sur ce qui est un peu plus traditionnel.
Ouais.
Toi, tu prends le relais sur ce qui est plus personnel aux joueurs, ses réseaux sociaux, ses plans de com avec les différents médias, etc.
Ouais. Bah, tu vois, le job de la communication globalement, ou même plus loin, le job du marketing, il a énormément évolué au cours de ces dernières années, et tu as différents départements avec différents secteurs d'activité. Quand tu parles de la communication, tu vois, c'est large, tu as du social media, mais tu as aussi par exemple de la communication RP.
Ouais.
Donc tout ce qui va être répondre à des interviews. Je pense que, je ne sais pas si tu le confirmeras Edouard, mais les sollicitations pour un joueur il y a quelques années sont peut-être moins importantes que les sollicitations qu'aujourd'hui peuvent avoir les joueurs aujourd'hui. Il y a une multitude de médias qui te sollicitent pour faire des interviews, et donc du coup tu dois répondre à ça. Par rapport par rapport à ta question Mathieu sur la partie media training, aujourd'hui, un joueur, quand il fait une interview, le club va le brider parce que le club a ses intérêts à lui. Sauf que le joueur, lui, il a forcément d'autres intérêts. Ouais. Pour faire une interview, il faut comprendre pourquoi tu fais une interview. Quand tu dois aller faire une interview, ça s'inscrit dans quelle stratégie, dans quel contexte, que ce soit ton contexte sportif ou ton contexte personnel. Et au final, quand tu dois faire une interview, tu dois t'intéresser à une seule chose, en tout cas la chose la plus importante, pardon, c'est quel message tu veux véhiculer. Le club ne va pas forcément t'accompagner, te laisser travailler sur le message parce qu'il va forcément orienter son discours au regard de ses intérêts à lui. Le joueur, lui, doit se concentrer sur quels sont ses intérêts et quel est le message qu'il veut faire passer. Et nous, tu vois, dans les joueurs qu'on a pu accompagner à ce niveau-là, on a travaillé sur 3 piliers. Le premier, c'était pourquoi on faisait une interview, dans quelle stratégie ça s'inscrivait, les objectifs de ces interviews. Et ensuite, quel était le message qu'on voulait faire porter, le ou les messages qu'on voulait faire porter, et on les répétait.
Ça t'évoque quoi, toi, ces sujets-là d'image quand tu étais dans les différents clubs par lesquels tu es passé? Est-ce qu'à travers ta carrière, tu as vu des évolutions sur la manière dont les joueurs étaient accompagnés en termes d'image? Est-ce que toi, tu as travaillé dessus particulièrement? Je suis un peu preneur de ton retour d'expérience, monsieur Cissé.
Il y avait l'ancienne génération, la nouvelle génération. Moi, j'étais l'ancienne génération. Pour moi, il fallait être bon sur le terrain, le reste, je m'en foutais. C'était une erreur, tu vois.
Tu le regrettes, ça?
Oui, mais parce qu'il n'y avait pas Oussama, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aurais bien aimé. Non, c'était juste des RP classiques, tu vois. C'était juste montrer ta fraise. Il n'y a pas de message particulier. Maintenant, moi, j'avais des avis. J'aurais bien aimé avoir un conseiller qui me dise, écoute, voilà, t'as des avis, génial. On va pouvoir profiter et parler ton message. On va pouvoir le porter, le communiquer. Et voilà, ça aurait été sympa. Bon, je suis arrivé. C'est pas grave. C'est pas un souci.
Ouais.
Donc oui, t'avais la communication du club, ta communication perso. Et de plus en plus, à mon époque, on faisait énormément attention à ce qu'on disait parce que justement, on n'avait pas de moyens de rattraper notre message. Maintenant, ouais. avec les réseaux sociaux, effectivement, s'il y a eu une erreur de langage ou quoi que ce soit, tu peux communiquer sur ton Twitter ou alors sur ton Instagram où il y a une erreur, j'ai voulu dire ça, ça passe. Tu vois, c'est, ça fait un effet pchit. Avant, tu disais une saucisse, comme on dit.
Ouais.
Pendant toute une journée ou deux jours, c'était compliqué.
Ouais, ouais.
Tu peux te rattraper. Donc, il y a avantage et inconvénient. Donc, maintenant, la communication, maintenant, si elle est bien menée, c'est vraiment un vrai plus. C'est vraiment un vrai plus. Et ce que tu es en train de dire, c'est assez intéressant. Par contre, comment tu fais, donc, du coup, pour... tu travailles avec les agents pour les convaincre que la communication, que gérer la communication de leur poulain est intéressant. Est-ce que tu as des joueurs qui sont complètement réticents ou alors tu as des joueurs qui comprennent que c'est un réel plus?
Ma réponse, elle va être assez particulière parce que elle dépend en fait du temps à laquelle tu me poses cette question. Quand tu me poses cette question, par exemple, il y a 4 ans, les agents que j'ai pu rencontrer, ouais. quand je venais d'arriver sur ce marché-là, ils étaient extrêmement réticents. Et les premiers serrages de main que j'ai pu avoir avec les agents étaient « on va te fermer les portes ». Et je m'en souviens quand j'ai commencé et que j'étais entre guillemets un plus petit niveau, on m'a fermé les portes, quoi.
Tu confirmes que c'est récent, quoi. En fait.
Ouais, ouais.
C'est un truc qui est... voilà.
Bien sûr, on me ferme les portes parce qu'on a tendance à vouloir sécuriser, verrouiller le joueur autour.
Il se sentait menacé.
Ouais, je pense, ouais. Donc, on m'a beaucoup fermé les portes. Et aujourd'hui, quand tu me poses cette question, la réponse est différente parce que finalement, c'est les joueurs... Moi, dans le cas de figure, c'est de la reco entre joueurs. C'est des joueurs qui ont pris conscience que c'était une étape indispensable dans le but de se professionnaliser, de rationaliser et d'amplifier leur valorisation. Et c'est eux qui l'imposent à leurs joueurs, et parfois même qui l'imposent à leur famille en disant « Moi, j'ai choisi, en l'occurrence, là, Oussama ou d'autres, pour gérer cette verticale-là de mon métier. » Et donc, tu vois, quand tu me poses cette question que je trouve super pertinente, c'est dans un paysage temps, à quel moment tu poses cette question et ta réponse est forcément différente. Okay. Tu me connais, Mathieu, ça ouais. fait quelques années que je suis dans l'écosystème, un peu plus de 8 ans maintenant.
Ouais.
J'ai jamais fait un deal de transfert.
Ouais.
J'en ferai jamais.
Ouais, et surtout, tu vois, la raison pour laquelle on a un petit peu orienté cette question avec Edouard au départ, avec l'aide de la conscience Maxime Marchand sur peut-on faire carrière sans son image, c'est parce que on décèle aussi les vrais changements de comportement dans l'industrie du foot liés à l'image. Et je pense notamment tu vois, à des clauses dans les contrats. Il y a un truc qui est sorti il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, sur la prime d'exemplarité au PSG. À savoir, il fallait que tu te présentes devant les supporters. Que,
oui, oui.
Est-ce que
Oui, mais ça, c'est autre que de la communication, ça. C'est juste...
Mais c'est de l'image.
Ouais, c'est de l'image. Ouais.
Et t'avais un truc comme ça dans tes contrats?
Non, non.
Ouais, donc tu vois, c'est relativement nouveau.
Oui, mais c'est pour ça. Ce que dit Oussama, c'est vrai, c'est il y a 4 ans, 4-5 ans, et en fin de compte, en l'espace de 4-5 ans, maintenant, l'espace-temps, et c'est plus le même. Avant, ouais. c'était 10 ans qu'il fallait, maintenant, en l'espace de 5 ans, t'as l'impression, et peut-être que dans un ou deux ans, ce sera différent. Ouais, ça exact. Va très, très vite.
Exact.
Mais oui, non, le truc d'éthique, on n'avait pas. C'est-à-dire que si lors d'un match, on perdait.
La prime d'éthique, c'est ça.
Ouais, si lors d'un match, on ne saluait pas les supporters, bon, t'avais le directeur sportif qui venait nous voir, on se faisait secouer un peu ouais. les puces, et puis le match d'après, c'était réglé, tu vois. Sauf que maintenant. Il y a une dérive et maintenant oui si ils vont pas saluer ils ont un...
ouais, ils sont une amende quoi.
C'est même pas une amende parce que t'as pas le droit des amendes
ouais.
Là je spoil, c'est à dire que grosso modo ils ont un bonus, un package, un bonus
ouais.
Si jamais ils y vont pas, ils touchent pas ce bonus
négatif,
ouais. D'accord. Et ils sont suffisamment intelligents les mecs pour dire bon ouais. juste bon, je vais aller applaudir super ouais. Alors ça veut pas dire qu'ils sont obligés de le faire, il y en a qui le font sincèrement, qui ont vraiment envie parce qu'ils remercient les supporters, et d'autres qui le font parce qu'ils disent « Putain, ouais, si j'y vais pas, attends, mes vacances au Balear, moi je vais y aller. »
Mais tu vois, ça, je trouve que c'est du tangible sur l'évolution de ce métier de conseil en image. C'est-à-dire que c'est directement lié à potentiellement tes revenus, même si du bonus, c'est pas une amende. Est-ce que toi, dans ton parcours, t'as perçu d'autres évolutions comme ça marquantes, où tu dis « Ouais, ça c'est un événement, où c'est quelque chose qui est une pratique aujourd'hui, qui découle du fait que les gens ont compris l'importance de l'image ?»
La monétisation.
Ouais.
Moi, je pense que le plus gros delta, c'est la monétisation de l'image. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a, je pense, une vingtaine, une trentaine d'années, dans l'écosystème du football, les athlètes qui avaient accès à des deals d'image, c'était 2 ou 3 athlètes, tu vois, ouais. et qui étaient les...
Non, c'était les stars, il y avait un peu plus, mais c'était les stars,
les
et c'était un peu plus
quoi.
Compliqué. Ouais.
Ouais,
et c'était pas il y a 30 ans, il y a à peu près une quinzaine d'années.
Ouais, même une quinzaine d'années, mais, exactement. Mais, il y avait, c'était les...
Super tard. Ouais, c'était le siècle dernier, Oussama le salaud.
Tu l'attaques sur...
Là,
t'as ta chaîne des cartes sensibles, les gars.
est tout jeune.
J'ai dit 20 ou 30 ans. J'espère qu'on corrigera. Tu vas revenir plus sur les 20 ans.
Non,
mais je suis d'accord, tu vois, c'était uniquement les stars, tu vois, qui avaient accès à ces valorisations de deal-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le même cas de figure. Aujourd'hui, globalement, tous les joueurs ont accès à des opportunités commerciales.
C'est ce qui fout le problème,
d'ailleurs. Et c'est ce qui fout le problème, parce que tu as accès à des différentes marques qui te proposent des opportunités commerciales et qui te proposent même des contrats qui peuvent te mettre dans une situation très délicate. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. On m'a appelé sur des sujets sur des sujets très diversifiés, que ce soit des opérations publicitaires avec des boîtes dans le domaine du cosmétique ou des boîtes dans de la blockchain par exemple, et il faut faire très 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 attention. Donc je pense que ce qui a énormément changé, c'est effectivement il y a 15 ans les opportunités commerciales sportives et extrasportives avec des marques en dehors de l'écosystème du sport, elles étaient réservées uniquement à une élite de joueurs. Aujourd'hui ça s'est beaucoup plus démocratisé, tout le monde y a beaucoup plus accès, et donc s'il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a plus d'acteurs qui bossent autour de ces opportunités là, et donc du coup, c'est là où je pense qu'il y a un vrai point de vigilance à avoir.
Ouais, puis ça demande du travail. Et j'imagine aussi de ta part un choix dans les personnes avec qui tu collabores. Et je vais élaborer un petit peu plus. C'est quand on regarde aujourd'hui ton panel de clients, je pense notamment à Edouard Mendy, je pense à Bilal Kitou en boxe, ce genre d'acteurs. On est sur des gens qui ont déjà une maîtrise des soft skills, sont structurés, sont capables, si tu veux, de se présenter à leur écosystème de manière assez professionnelle. Est-ce que ça, c'est uniquement le fruit de ton travail, ou est-ce que, avant de travailler avec quelqu'un, tu regardes déjà ça et tu dis, cette personne-là, elle a comme tout un chacun besoin d'être accompagnée parce que c'est un métier, mais elle a déjà tout ce qu'il faut pour que la gestion de l'image soit qualitative.
Ouais, c'est vraiment une très bonne question, et sur ça, tu vois, quand...
C'est rare, je peux dire.
c'est la bonne question du podcast.
Non, en tout cas, j'ai droit à une bonne question.
Non, l'épisode, il n'est pas fini, mec. Non, mais 95e minute de jeu, ça doit te rappeler quelque chose. Ouais,
je vois pas du tout à quoi tu fais référence. moi, j'ai le droit à une bonne question par épisode.
non, mais c'est vraiment une très bonne question, et par rapport à ça, tu vois, quand je me suis lancé il y a quelques années, je me suis beaucoup trompé, tu vois, j'ai accompagné des clients que j'aurais pas forcément dû accompagner, et ça m'a permis beaucoup d'apprendre. Donc j'ai eu des échecs avec des dossiers qui m'ont permis d'être peut-être un peu plus mature sur les dossiers que j'accompagne aujourd'hui. Je pense que c'était une étape indispensable.
Ah, par contre,
je te confirme.
Tu vois, c'est une étape indispensable. Et
je t'ai vu au lancement, à ton lancement. Rage TV.
Ouais. Tu vois comment je me suis cramé sur ça. Mais
non,
voilà,
non, c'est une expérience.
Expérience, ouais. Expérience. Bah, tu vois, peut-être qu'on en parlera, mais je viens de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai monté des startups. Ouais. Je me suis beaucoup planté. Mais j'en suis assez fier aujourd'hui parce que ça te permet d'être plus mature. Et donc, par rapport à ta question, tu sais, on a un ami en commun qui est un très, très, très bon agent. Et donc, Mounir, que tu connais très bien.
Ouais.
Et il m'a dit, de toute façon, dans cet écosystème-là, tes joueurs te ressemblent.
C'est-à-dire que tu es capable de refuser un client, même si c'est du bon business.
Tu vois, tu m'aurais posé cette question il y a 4 ou 5 ans, je t'aurais dit non.
T'es malade ou quoi?
Je le pensais. Et maintenant, oui. Ouais, aujourd'hui, je refuse.
Parce que
je refuse
t'as compris qu'au final, il est capable de griller ton business. C'est-à-dire, il va t'apporter peut-être de l'argent, mais au final, tu vas dire quête de sens. Aussi, ouais. C'est une période aussi où tout le monde est à la recherche de sens. Est-ce que ce que je fais, ça a de la valeur pour moi, pour mon client, tout simplement pour la société?
Exactement.
Ouais, donc, mais
et tu vois, le nom, il est vachement important. C'est-à-dire que si tu te lances pas dans une aventure, c'est d'identifier pourquoi tu vas pas. Et nous, récemment, on a dit non à certains dossiers pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est qu'on ne partageait pas des valeurs et une vision commune des choses. Et donc, du coup, à un moment donné, au bout de 2 ou 3 mois, je pense que les discussions auraient abouti à des tensions. Donc, ça sert à rien d'y aller. Le 2, c'est que t'es dans un milieu d'image et de réputation. Et donc, du coup, tu dois la protéger. Et tout ça fait que tu dois forcément faire attention dans le but de pas ternir ton business et la marque que tu peux développer aussi de ton côté.
Alternative football.
Comment ça a commencé tout ça? C'est-à-dire que t'en as parlé, t'es serial entrepreneur, t'as monté plusieurs business.
Ouais.
Donc ça, faudra que tu nous en parles. Tu vois, on en parlera après de la porosité entre les milieux de l'entreprise et du foot. C'est un truc qu'on évoque souvent ici. Mais comment tu t'es lancé dans ce métier-là? Parce qu'effectivement, il y a pas de formation. Agent sportif, c'est un métier qui est différent. Comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui?
On se fait un petit retour en arrière, mais tu vois, comme on se le dit tout à l'heure, moi j'ai grandi à Reims, j'ai grandi dans un quartier à Reims, et la force que j'ai eue, c'est que mes amis d'enfance, tu vois, ils venaient tous d'univers et de cultures totalement différentes, tu vois. J'ai grandi avec moi, je suis français d'origine marocaine, mes meilleurs potes étaient turcs, algériens, bosniaques et l'autre du Burkina Faso. Donc tu vois, j'ai déjà grandi avec une mixité culturelle et une mixité linguistique, parce qu'on en parlera après, c'est super important. J'ai joué au foot jusqu'à 16-17 ans au stade de Reims.
Ouais.
Je me fais virer par le club pas parce que je me suis blessé, mais tout simplement parce que j'étais pas bon,
pour
j'étais pas suffisamment bon
pour l'image.
j'étais,
tu correspondais pas aux critères. Champenois, t'étais trop basané.
C'était mort.
Non,
c'était mort. Mais j'étais bon, enfin plutôt talentueux, mais j'étais pas assez bon dans la discipline et dans le cadre de travail qui était requis à cet âge-là pour passer pro. Et
tu réfléchissais trop ou trop bien.
J'étais pas sérieux, en vrai, j'étais pas sérieux. Juste pas assez sérieux. Et donc, je me fais virer du club. Et là, du coup, quand tu te fais virer, bah, tu te retrouves dans les études. Et à 18 ans, j'arrive à
j'aime bien comme tu dis ça. Bah là, putain, franchement, je me fais éjecter. Et puis, qu'est-ce que je fais, plan B, les études.
Ah, mais ça fait penser à ton anecdote sur Ronaldinho.
Ouais, c'est ça.
Et tu vois, je reviens et j'essaie d'être un poil un peu plus sérieux sur les études et ça me correspond pas. Et moi, ce qui me passionne, tu vois, c'est ce qui m'a passionné très jeune, c'était de monter des projets, de monter des boîtes.
Ouais.
Je m'appelle Oussama et donc je m'en souviens, un été, je dépose 50 CV avec mon meilleur pote, je reçois zéro coup de fil, mon pote s'appelait Mickaël et il reçoit 35. Ouais. J'ai compris que ça allait être très compliqué. Monte des boîtes, mec.
Surtout, c'est un mauvais rôle. On s'appelait Oussama dans les années 2000. Pour les raisons qu'on connaît, j'imagine que t'avais quand même certaines barrières. Quoi.
Ouais, c'était, et ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec ma femme, mais c'était une grande faiblesse pendant plusieurs années. De 2001 globalement jusqu'à peut-être 2017-2018, c'était une grande faiblesse et j'avais honte de dire que je m'appelais Oussama. Et aujourd'hui, tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Pris du recul et je suis assez content quand j'arrive dans certains endroits et que je me dis je m'appelle Oussama, donc pour la petite histoire c'est plutôt sympa, mais globalement ouais, c'est l'entrepreneuriat, ça m'a toujours fait kiffer. J'ai un père entrepreneur qui m'a donné énormément de liberté et qui m'a laissé faire des choses. Et donc en 18 ans je monte une première boîte que je plante quasiment un an après. Je vais en Angleterre pour faire une licence. L'objectif pour moi c'était uniquement de parler anglais. Je sortais tout le temps, j'essayais d'avoir des interactions. J'étais à Southampton pendant 9 mois et j'ai fait 3 mois à Londres.
Ouais, c'est le feu en plus, c'est soleil.
Quand il y a du soleil, c'est pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est sympa. Beaucoup de parcs. Et donc, du coup, je pars vraiment pour apprendre l'anglais. Je reviens, je valide pas ma licence, mais je suis content parce que du coup, j'ai l'anglais en poche. Et après, je lance différents projets, différentes boîtes que je crache énormément. Et en 2014, donc à Reims, je travaille pour le club, je gérais toute la partie, je travaillais avec le service marketing et je faisais des contenus audiovisuels.
D'accord.
Donc, on accompagnait le club en mission sur de la strat audiovisuelle. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui est joueur, qui va s'apprêter à jouer une Coupe du Monde avec l'Algérie.
Qui s'appelle
Aïssa Mandi, avec qui j'ai commencé, puisqu'on était copains d'école. Quoi.
D'accord.
On a grandi ensemble, on a joué ensemble, et lui perce en pro. Et lui perce en pro sans être le plus talentueux de notre génération, mais le plus travailleur, et celui qui avait compris qu'il fallait avoir une rigueur. Et un mois avant la Coupe du Monde, il savait que j'avais déjà fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Reims pour comprendre les réseaux sociaux, comprendre comment ça fonctionnait, comment ça se monétise. Et écoute, Aïssa, un mois avant la Coupe du Monde, je lui ai dit écoute, lance tes réseaux sociaux, c'est important. On crée son profil Insta, on crée son profil Twitter, son profil Facebook, je l'accompagne et je lui fais comprendre pourquoi c'est important. Avant cela, avant la Coupe du Monde, il a 3000 fans sur les réseaux sociaux. Le lendemain du match d'élimination contre l'Allemagne, sa base fan passe à 1,5 million. Et là,
tu passes
de 3000 à 1,5 million en l'espace de 30 jours. Donc la croissance est juste exceptionnelle. Et je crois, une semaine après, des médias l'appellent, des sponsors l'appellent, et il n'a pas forcément le bon interlocuteur pour gérer ces sujets-là. Et comme j'étais potentiellement la personne de confiance et la personne autour de son écosystème qui comprenait le mieux ces enjeux-là, il m'a tout de suite fait confiance et on a essayé de l'accompagner à ce rythme-là et à ce moment-là de sa carrière sur ce département qui était le département qui touchait à tout ce qui était les revenus à l'image. Donc j'ai commencé comme ça avant de remonter des aventures dans des startups, de les planter et puis de monter cette boîte Chap que j'ai depuis quelques temps, qui accompagne quelques athlètes qui viennent d'univers totalement différents. Et comment j'en suis arrivé à travailler avec moi, j'étais très focus football. J'ai commencé avec un journaliste commentateur français que vous connaissez très bien, Smaïl Bouabdella,
qu'on salue d'ailleurs.
Enfin, super mec. Et entre temps, lui et moi, on avait monté un média qui s'appelait Total Régal. Et dans ce média-là, j'ai rencontré différents athlètes et différents acteurs de l'entertainment qui venaient d'un univers totalement différent, dont Bilal Chkitou. Et en fait, un fit humain se crée entre lui et moi. Je pense qu'on partageait la même façon de voir à la fois son sport, à la fois l'univers artistique qu'il aime au travers de son sport. Et j'avais aucune expertise, mais absolument aucune expertise dans ce domaine-là. Je connaissais pas la boxe, je connaissais pas l'écosystème. mais j'ai juste encore une fois essayé de comprendre comment ça fonctionnait, trouver les bons interlocuteurs, trouver les bons experts pour m'accompagner en tout cas sur ce sujet, et comment je pouvais générer des revenus autour de lui et autour de son image. Et en l'espace de un an et demi, on a fait quelques petites belles choses. Ouais. Je l'ai accompagné sur son dernier combat, étant sa seule défaite, mais sa plus grande réussite, puisqu'il a été élu combat de l'année à l'échelle mondiale, et qui lui a permis d'avoir des opportunités, mondiales aujourd'hui encore plus fortes. Donc, globalement, mon scope d'intervention, il est surtout, et c'est ce que j'essaie de recommander le plus possible, c'est que je suis pas forcément un expert, mais j'essaye du mieux que je peux de trouver les meilleurs profils pour accompagner les athlètes que je représente.
La marque, en fin de compte, quand elle vient, elle t'appelle de plus en plus maintenant, parce que tu commences à avoir un nom et t'as des clients intéressants, importants. Donc les marques, qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles vont demander un joueur, un consultant ou caisse ou un boxeur. Et elles vont demander aussi des followers, c'est ça ?
Ouais.
Donc c'est l'audience. Parce que s'il n'y a pas d'audience...
S'il n'y a pas d'audience, tu ne peux pas forcément monétiser. Et donc, effectivement...
Et donc, la marque, elle veut quoi ? Elle veut se servir de l'audience de la personne.
Elle veut, parce qu'elle a parfois un déficit de notoriété.
Donc, la marque, elle veut juste servir de l'image.
Elle ne veut pas juste, mais par contre, ça fait partie d'une des composantes essentielles quand tu es dans la discussion. C'est sur quel marché ton athlète a une audience. Ouais. Quelle est la base fan, tu vois ? Est-ce que tu es sur du 18-34, plutôt homme-femme, en France, en Afrique, aux États-Unis ou autre ?
Ouais, c'est le côté un peu froid.
C'est le côté, quand tu rentres dans le fond. Mais par contre, en substance, et moi je le vois dans toutes les négos que j'ai aujourd'hui avec des marques sport ou hors sport, cette discussion-là sur les chiffres, elle arrive tout à la fin. Ce qui intéresse les marques aujourd'hui, c'est qui il est l'athlète. C'est sa personnalité à lui, ce qu'il dégage, sa vision, ses valeurs, quelle trace il a envie de laisser. Et du coup, je t'en parlais tout à l'heure, tu sais, de purpose, d'impact, de mission.
Non mais c'est vraiment sincère ça ou pas ? Parce que moi j'entends, c'est du bullshit parfois, hein, le purpose, après au final... Ah, lui, il a 1 million de followers, c'est super. Par rapport à un pélo qui a peut-être 10 000 personnes avec un vrai purpose, ouais, mais on s'en fout.
Alors je pense sincèrement que, en tout cas, dans les discussions que nous, on peut avoir, que ce soit avec les marques ou avec les athlètes avec qui je travaille, mes athlètes ont une vraie volonté sur ces sujets-là, et je pense que c'est aussi un point commun sur la valeur.
C'est lié au choix dont on parlait.
Lié au choix. Et sur les marques, moi en tout cas, pour le vivre sur des négos avec des marques sport et hors sport, aujourd'hui c'est un vrai sujet central pour les marques de travailler avec des athlètes qui ont à la fois des valeurs communes, qui ont une vision d'avoir un impact commun et positif. Ça, j'en suis
le point positif, c'est que tu dois être identifié maintenant. C'est ça ton point, ta force. C'est-à-dire que si les marques, elles viennent te voir, elles voient ton portefeuille de clients, elles disent, bon, les mecs, ils sont câblés, ils sont ceci, ils sont cela, donc oh, ok, on va pas aller faire du sensationnel ou du truc un peu farfelu. Donc c'est ton point positif.
Et t'as le reach que le sport t'apporte que tu retrouves nulle part ailleurs. Je pense que tu peux blinder ce que tu veux en campagne de pub à la télé, versus le message qui est porté par un sportif qui a une bonne image. Je pense que ça a rien à voir en termes de portée numérique, en volume, mais surtout en termes de puissance de discours.
Bien sûr.
Du coup, tes athlètes dans le foot, ils jouent dans des clubs, forcément.
Ouais.
La relation avec les clubs, elle est laquelle aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on en parlait un petit peu au début, le club a son message, en général, il ne faut pas faire trop de vagues, les clubs ne sont pas souvent sûrs de l'image qu'ils veulent véhiculer en plus, donc il faut parfois qu'ils se trouvent. T'as quel type de relation avec eux ? Les clubs ou les fédés d'ailleurs ? Tu vois, je ne sais pas, est-ce qu'avec la Fédération sénégalaise de football, il y a eu un événement assez important. Ils ont gagné la CAN pour la première fois de leur histoire il y a quelques semaines. Est-ce que tu engages avec eux ? Est-ce qu'il peut y avoir des projets communs ? Comment ça se passe dans tes relations avec eux ?
Globalement, quand un joueur arrive dans un club, forcément les clubs ont souvent de la réticence sur des sujets de communication pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent être dans le contrôle et que tu as eu énormément d'expériences qui parfois étaient négatives. Et donc tu arrives avec beaucoup de réticence. Et du coup, mon travail à moi, et c'est une de mes premières missions, c'est de créer de la confiance.
Ouais.
Et comment tu crées de la confiance ? C'est dans un premier temps, c'est de te présenter pour qu'ils prennent conscience aussi du type d'interlocuteur qu'ils ont en face d'eux. Créer de la confiance, être à l'écoute, comprendre aussi eux quel est leur timing, quelle est leur échéance, quels sont leurs objectifs au travers de ce joueur-là, et de créer et d'avoir une relation de transparence la plus forte possible. Sur les sujets, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, mais sur les sujets avec Edouard, on était sur des sujets où on a fait plusieurs interviews pour la campagne, pour le trophée Levaïachine et pour la campagne pour FIFA The Best Goalkeeper qui l'a gagné. Pour la gagner, t'as besoin que l'athlète soit plus visible, et donc du coup, pour qu'il soit plus visible, tu as besoin de faire des interviews. Ces interviews, c'est soit moi je les manage via mon réseau, et soit le club peut aussi les faire.
Comment ça se passe, par exemple, quand Edouard signe à Chelsea, Tu m'as dit qu'il a, il a son agent,
ouais.
Tu n'es pas son agent.
Ouais.
Donc vous arrivez, tu y vas avec son agent, vous y allez ensemble, et que le club puisse voir que tu fais, c'est le team, team Edouard Mendy,
ouais.
Ou alors c'est l'agent qui va, et puis après toi, un mois après, tu te représentes à, au dirigeant de Chelsea, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes deux pairs, ou alors séparés
Alors pour le coup, dans ces cas de figure-là, moi je n'y suis pas allé, donc moi j'étais, on s'est vu deux jours avant sa signature,
okay.
Ensuite il a été avec son agent sport signer le contrat, puis faire les photos, etc. en Angleterre, et moi il m'a connecté et présenté avec toute la partie market du club, okay. Et des opérations publicitaires avec le club, globalement deux semaines après sa signature, et ensuite deux semaines après sa signature, moi j'étais avec les différents interlocuteurs, donc du coup tout ce qui touchait mon domaine d'interaction, toutes les demandes du club ne passait pas par l'agent sport d'Edouard, mais elle passait par moi directement.
Vous êtes un dé, vous êtes, c'est pas une. Ok, ça passe.
Donc, et par contre, on était en permanence.
Oui, vous étiez au courant.
Exactement.
Voilà, d'accord,
exactement.
Okay. Et c'est un choix de ta part de garder ton indépendance ou tout simplement fusionner, ou un choix de la part de l'agent d'Edouard ou d'Aïssa de garder leur indépendance plutôt que de fusionner et faire une agence de sport, tout simplement.
Je pense que c'est aussi une question de souhait ou de volonté. C'est vrai que moi, à l'instant T, j'essaie de mener ma barque dans ce que j'essaie de faire. Je veux me centrer, me focus sur ce que je fais, essayer de travailler autour d'athlètes et de délivrer la meilleure expertise et pas forcément aller sur le sportif aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, l'agent d'Edouard, il a forcément d'autres types de clients qui sont pas forcément des clients sur lesquels moi je peux apporter de la valeur ajoutée. Et
ou
donc, du coup, l'idée.
Ou
j'ai pas forcément envie de travailler.
Alternative football.
Tu signes les contrats avec les joueurs? Comment ta collaboration avec eux, c'est quoi? C'est de, par exemple, un agent, tu signes un contrat de 2 ans. Est-ce que toi, tes clients signent un contrat avec toi, ou alors je peux devenir client avec toi comme ça sans signer de contrat?
Moi, tu vois, typiquement sur
entre ce que tu fais et l'usage.
Ouais, tous mes dossiers, j'ai pas de contrat.
D'accord, mais normalement, l'usage demande d'avoir un contrat ou pas?
Ouais, l'usage demande d'avoir un contrat. Nous, c'est beaucoup à la confiance au final. Good. Et je pars du principe, tu vois, moi, j'ai pas envie de verrouiller un joueur dans un contrat.
Okay.
Je me dis qu'à un moment donné, tu vois, si je génère de la valeur ajoutée et que je lui apporte suffisamment de revenus par rapport à ce que je lui coûte, c'est super. Et si à un moment donné, je suis plus forcément la bonne personne adéquate pour qu'il se développe, je suis plus forcément compétent ou j'ai plus le temps, parce que ça peut aussi arriver. Au moins, il est libre, tu vois, de créer une aventure avec d'autres personnes. Mais je suis pas dans un état d'esprit de pouvoir verrouiller, liguer le joueur le plus longtemps possible.
Est-ce qu'il y a des requins? Est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui peuvent attaquer tes joueurs?
Enfin, bien sûr.
C'est, voilà. Mais t'acceptes le truc, tu dis, écoute, à un moment donné, si je fais bien le taf avec mon client, enfin, c'est même plus, ça devient plus un client, ça devient un ami, je pense, ou un
bien sûr, qui a bien
devient
bien
fort.
Bien sûr.
C'est la vie, quoi.
Et ça fait partie du monde des affaires, c'est le business, et moi je vois ça de façon très ferme. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème où les joueurs sont, comme on le disait, tu sais ce que c'est, Edouard, t'es extrêmement sollicité. Et quand tu travailles avec des athlètes qui sont des athlètes de haut niveau dans leur domaine, ils sont forcément extrêmement sollicités, ça fait partie des choses, et surtout ça te challenge, en fait.
Ouais.
Tu restes jamais dans ta zone de confort parce que tu sais qu'au bout de 2 ou 3 mois, t'as peut-être quelqu'un qui va te mettre un scud. Et moi j'aime ça. On vient d'un. Quand tu fais du sport, t'essaies de faire du sport à haut niveau et que tu viens de l'écosystème des startups, t'es ambitieux. Et l'ambition t'amène à être en concurrence, et la concurrence te fait progresser. Mmh. Et moi, j'aime le fait que dans cet écosystème-là, t'as des gens qui te mettent des scuds, parce que ça te permet de ne jamais rester dans ta zone de confort et de, en permanence, te challenger, te renouveler et remettre en question ton modèle.
Qu'est-ce que t'appelles des scuds?
Des mecs qui veulent essayer de récupérer tes clients, des mecs qui veulent essayer potentiellement de proposer des services qui peuvent être plus qualitatifs que ce que toi tu peux proposer,
okay.
Des opportunités commerciales qui peuvent être
draguer
plus intéressantes.
En disant voilà, moi je peux avoir cette marque-là, ah t'as eu cette marque-là, mais j'aurais
exactement.
Pu avoir un meilleur tarot.
Exactement, ah le deal, t'as eu ce deal-là,
ah ouais,
mais j'aurais pu te l'avoir
un
meilleur tarot.
C'est pas mal pour les poussins.
Exactement.
Ah ouais, d'accord.
Exactement. ça arrive souvent, ça arrive.
C'est comme dans les agences, c'est la même chose.
Ouais,
et la question que je vais te poser, non.
Tu vois, l'agent qui va te dire j'aurais pu t'emmener dans ce club-là alors que cet agent il t'a mis là, tu vois.
Ouais. Et dans votre business, est-ce qu'il y a des mastodontes, enfin des mecs qui sont super forts dans le foot? T'as Mino Raiola, Pizarro,
ouais, l'équivalent d'un Mendes dans
l'image. Est-ce que tu as Grosso modo,
sans,
alors, et je veux pas que tu donnes de nom. Non, je vois pas.
Mais je suis d'accord avec toi que sur, en tout cas, enfin, je veux pas du tout paraître
pour quelqu'un de roi,
prétentieux, ça, tu vois. Mais je m'étais posé cette question à un moment donné parce que, tu vois, j'avais parlé avec un très très bon ami qui bosse chez Canal, et Raphaël Domenac, et je lui dis, écoute, Raph, on sortait de Trova the Best Goalkeeper, et après avoir fait toute cette campagne là dans laquelle je l'ai pas faite seule, moi je me suis entouré, tu vois, j'ai recruté 4 athlètes, 4 profils, mais j'ai recruté notamment un Patrick Bonin, qui est le DG de l'agence Jean, l'agence de com d'influence, qui est présente dans 5 pays en Europe. J'avais recruté aussi Grégoire Kopp, qui m'accompagnait, qui est l'ancien conseiller spécial.
Alors là, il faut éclaircir. Qui t'a recruté, c'est-à-dire, pourquoi tu c'est alors, ton équipe?
Alors ouais, exactement, tu vois.
Voilà, du coup, ça, il faut l'organisation, comment t'as monté ton truc.
Ouais, tu vois, sur cette campagne de la RP, ce qui était important, c'était de montrer comment t'es capable d'apporter une valeur ajoutée à ton client, et comment t'es capable de pouvoir permettre à ton client d'avoir une exposition médiatique en distillant les bons messages.
Alors, vas-y, comment ?
C'est un sujet que moi...
Ah, tu vois, il y a tout un taf, en fin de compte. Tu vois, tu le dis pas, ça, tu nous le dis pas, tu le sais.
Mais c'est pas à moi de le dire.
C'est pas juste, écoute, voilà.
Explique-nous
un peu comment tu fais.
C'est toute une campagne de RP qui est mise en place pour mettre en lumière les statistiques, pour mettre en lumière l'homme, pour mettre en lumière le joueur.
Si j'avais su.
Pour lui permettre de...
Il n'y avait pas ça il y a 15-20 ans. Non, mais avant, il fallait juste l'article. Tu vois, putain, Edouard Cissé, il a fait un bon match. Mmh. Bon, mais c'est pas suffisant, t'es d'accord avec moi?
Ouais.
Et ben, t'imagines, tout ce qu'il faut faire, c'est même plus seulement être bon sur le terrain, à faire des arrêts ou des tacles ou marquer des buts. Ouais. C'est, y a une équipe derrière.
Ouais.
Mais tu vois, je vais sortir un peu de mon devoir de réserve, parce que ça amène un peu de doigt à notre moulin. Mais tu vois, Oussama a fait un truc sur la campagne avant le Ballon d'Or et avant The Best. C'est qu'on a travaillé, nous, avec via Opta, avec Oussama, via notre site The Analyst. Enfin, on a travaillé. On a été en contact pour pouvoir regarder quelles étaient les données les plus pertinentes pour mettre en exergue sur les gardiens notamment. Et ça, c'est une démarche qui vient de toi et de ton équipe. C'est-à-dire que c'est relativement nouveau pour nous. Nous, fournir des données à des joueurs, ça on sait faire et on le fait souvent. Mais que ces données soient réfléchies dans le cadre du projet du joueur, ça c'est plutôt nouveau. Mmh. Et donc ça, je trouve que c'est un bon exemple de ce que tu disais tout à l'heure sur le travail individuel autour du projet.
Ouais.
Et que tu as plein de ressources aujourd'hui. Tu as des canaux qui sont multiples. Tu as les réseaux, tu as les médias traditionnels, etc. Mais tu as aussi les contenus. Et les contenus, ça, c'est important quel qu'ils soient. Et ce type d'échange, je trouve qu'ils mettent en exergue le fait que tu as la créativité qui aussi rentre en jeu quand tu construis un produit pour un joueur.
Ouais. Bah, tu vois, on avait un objectif clair, c'était de gagner une récompense individuelle. Ouais. Et ensuite, on avait des moyens pour le faire, parce que ça arrivait à un moment où il fallait créer des opportunités médias. Et ensuite, quand tu as des opportunités médias, il faut savoir qu'à l'intérieur même d'un média, tu peux avoir 4-5 journalistes qui te contactent pour pouvoir faire une interview. Sauf que tu dois...
Ils sont relous, les journalistes, Maxime Marchand.
Non, mais tu dois comprendre quel est le bon... Qu'il est le bon interlocuteur, et quel interlocuteur ne va pas forcément te piéger, est-ce qu'il va partager, est-ce qu'il va promouvoir le bon message que nous on cherche à promouvoir. Donc tu vois, tu as tout ce travail là déjà dans un premier temps de définir la stratégie, quels sont les objectifs, quels canaux de communication tu utilises, en plus là dans le cadre d'une campagne un peu plus globale, donc comment tu touches le marché africain, comment tu touches le marché asiatique, le marché aux US, le marché européen, quels sont les bons interlocuteurs médias, identifier les bons médias, identifier les bons journalistes reconnus et qui vont distiller le bon message et qui vont faire en sorte que l'histoire d'Edouard, au-delà de ses compétences individuelles et sportives sur le terrain, lui permette d'être un candidat très sérieux pour gagner. Et on a été très contents parce que on n'a pas réussi, on n'a pas obtenu le trophée Levi Hachin. Edouard a gagné le FIFA The Best Goalkeeper. Et depuis Georges Weah en 95 et Zizou en 98, Edouard s'inscrit dans cette ligne-là. Et après ces deux monstres-là, c'est le seul joueur franco-africain à avoir obtenu une récompense individuelle dans un trophée majeur.
Alternative football.
Cas pratique. Non, étude de cas. j'ai un joueur...
C'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Cissé.
J'ai un joueur super bon. Et il me dit, je veux aller en équipe de France. Mon objectif, dans 5 ans, je veux aller en équipe de France. Donc, on fait un travail avec lui sur le terrain. Et là, après avoir fait un podcast avec mon acolyte, Mathieu Lipalette, je rencontre Oussama. Et je lui dis, écoute, je vais te présenter Oussama. On va mettre en place une stratégie, parce que si ton objectif, c'est d'être dans 5 ans en équipe de France, bah, ce sera ça. Donc, qu'est-ce que tu préconises? Il y a toute une campagne de presse, il y a quoi? C'est-à-dire, comment tu fais, Oussama? J'ai un gamin super bon,
ouais.
Tu l'as vu, tatatitata, il faut que dans 5 ans, c'est ton objectif, dans 5 ans, il faut qu'il soit en équipe de France, ou peut-être même un peu avant. Qu'est-ce que
tu le factureras, parce que je suis presque sûr qu'il est en train de bosser là.
Bien sûr. Ah, je bosse. Ah bah ouais, attends, tu le sauras.
Là, il est en train de.
Est-ce que j'envoie les honoraires? Ouais,
t'en vas les.
T'inquiète.
Pas de contrat, mais la facture, voilà. Tu l'envoies.
Non, ce que je te dirais, c'est que déjà, c'est super intéressant quand déjà t'as un horizon avec un objectif. Et tu construiras ça avec le temps, c'est-à-dire que tu vas le mettre à l'aise et tu vas le mettre en confiance et tu vas commencer avec des interviews en local, avec des médias locaux.
Ouais, mais là, il est en équipe de France. Là, la target, c'est équipe de France, donc il s'en fout de France 3, Picardie ou je sais pas quoi là.
Alors
si tu. Désolé pour France 3.
Si tu veux dire, t'as un a priori pour les régions, Edouard Cissé, c'est là.
Mais moi, attends, l'ancrage territorial, c'est important. Mais on parle de l'équipe de France, donc foncièrement. Hein,
mais c'est interrégional. Qu'est-ce que la France si ce n'est ses régions?
D'accord, mais c'est interrégional. Exactement.
Non, mais tu vois, par rapport à ça,
c'est compris que je veux voir un petit peu où ça va.
Et tu vois, d'autres vont te donner la vision de te dire, ok, ben on va tout de suite faire le CFC. Sauf qu'avant de faire le CFC, t'as besoin que le mec il passe par des médias, il passe par certains journalistes. Qui passe par certaines, ne serait-ce que pour une seule chose, c'est de prendre de la confiance dans un registre qui est différent. Donc tu vas le former sur les social media pour lui dire, bah tiens, ce réseau social-là, il est beaucoup plus adapté pour toi parce que ta personnalité est pertinente, ouais, sur ce réseau social-là. Je te prends l'exemple de TikTok, si c'est un mec qui est très fun et qui aime se, ouais, raconter un petit peu sa vie. Ensuite, sur la partie média, comme tu m'as donné 5 ans, je te dirais dans un premier temps, on va aller sur le local, on va faire en sorte que d'un point de vue local, tu sois identifié comme un très bon joueur. Une fois qu'on aura fait le local, à travers 2-3 interviews, notamment dans des domaines différents, que ce soit de l'interview web, l'interview écrite, ouais, l'interview télé et de l'interview enregistrée comme ce qu'on fait là, puisque c'est 4 interviews qui se préparent d'une manière totalement différente, mais dans lesquelles tu as besoin de prendre en confiance. Une fois que tu as fait le local et que tu es identifié en local, tu peux t'attaquer au national, et quand tu t'attaques au national, bah forcément tu t'attaques avec des médias qui sont nationaux et qui ont une audience beaucoup plus large, mais tu l'as fait parce que t'as déjà créé un climat de confiance.
Il veut pas se brouiller, il veut pas balancer. Hein. Donc, je fais l'équipe, je parle à l'équipe, il fait un jeu pour faire ça.
Non mais tu vois, typiquement, prenons
un football. Non mais attends, une fois qu'ils me disent, non mais
c'est
bien, mais
c'est qui le joueur? Tu vois ce que c'est qui le joueur?
Non mais après, tu vois, sur les chaînes nationales, c'est je pense beaucoup que ton joueur il peut être fait pour certains médias et certaines interviews. Et je te dirais pas que le Canal Football Club par exemple, c'est la meilleure interview à faire, ou Téléfoot, c'est la meilleure interview à faire. Je pense juste que globalement, il s'adresse à des audiences et à des marchés totalement différents. Et je pense qu'il faut toujours être dans la complémentarité. Ce que tu vas rechercher sur l'équipe, ça va être auprès d'une audience qui est spécifique. Ce que tu vas rechercher sur le CFC, ça va être auprès d'une audience très spécifique. Et si tu fais un SoFoot, ça va être une audience différente. Si tu vas chercher même un combini,
ils sont décalés, SoFoot.
Ça va être une audience différente. Donc je pense qu'ils sont tous très complémentaires, mais il faut juste, je pense, en tout cas, les interagir avec eux sur des stratégies d'étamines.
Bon. Je te mets 18.
Et tu m'engages quand même?
Mais pire,
c'est signé,
c'est validé.
Je continue sur cette logique, si tu veux, que je trouve hyper intéressante, parce que tu vois, tu fais pas de contrat, ça c'est la première fois que je l'entends pour le coup. Et pour le coup, c'est une mécanique complètement inverse aux agents sportifs, parce qu'effectivement, eux légalement, ils peuvent faire que des contrats de 3 ans, donc ils sont tout de suite à la
recherche du contrat. Deux ans, pardon. Mais en fin de compte, ils ne signent pas tous un contrat, mais. Bref.
Et donc, avant, si tu veux, le succès est mesuré facilement. On voulait un trophée individuel, on l'a eu. Avant ça, typiquement, sur d'autres actions ou avec d'autres sportifs, comment tu mesures le succès? Quand l'objectif final, quand la réussite n'est pas aussi palpable et pas aussi mesurable, comment tu pars du principe que ton travail de conseiller, le contrat est rempli, même s'il n'y a pas de contrat?
Je pense qu'il y a plusieurs métriques, sans utiliser de termes très, 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 très anglophones, mais la première des choses, c'est déjà la sensation. Le feeling que tu arrives à créer, la sensation que ton joueur peut avoir, et du coup en termes de perception, est-ce qu'il te sent comme étant quelqu'un qui t'apporte effectivement du bien et du positif autour de toi? Et ça, c'est souvent aussi un indicateur qui est pas quelque chose que tu peux chiffrer, mais qui est très important. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux et du social media. Sur la partie social media, c'est quand tu l'as récupéré, il était à combien en base fan? Et aujourd'hui, dans un horizon de 2 ans, disons, à combien il en est? Et est-ce qu'il a bien atteint les chiffres qu'on s'était engagé à obtenir? La troisième, c'est sur les opportunités commerciales qu'il a pu qu'il a pu avoir. Au regard de ton intervention, quel était le chiffre d'affaires qu'il faisait, et aujourd'hui, deux ou trois ans après, quel est le chiffre d'affaires qu'il fait ? Et est-ce que la balance charge et la balance recette, elle est dans le sens du positif ? Nous, aujourd'hui, on s'efforce d'être les plus bankable possible pour nos clients, tu vois.
Et, je te coupe deux secondes, parce que là, je ressens ton, tout de suite ton ADN de start-upper et de mec à monter les boîtes. Non, mais c'est vrai.
Oh, mais non, mais là, c'est... Je vous ai abandonné 10 secondes. J'ai repris là, je me dis, on est où là ?
C'est quoi, c'est ça.
Do it yourself.
Je parlais de porosité tout à l'heure. Ouais. Mais ça, la vigilance sur la viabilité financière de ta marque, ça, c'est quelque chose que tu as appris dans tes métiers par ailleurs.
Ouais, c'est rationaliser un business. Ouais. C'est-à-dire que quand je rentre dans un dossier avec un de mes clients, je sais potentiellement que je vais leur coûter tant. Et mon objectif à moi, c'est de leur rapporter 10 fois plus que ce que je leur coûte. Et qu'à la fin, quand on fait le bilan, ils ont eu tant de charges. Mais face à ça, ils ont tant de recettes.
Toi, ils te payent d'abord ou alors c'est en fonction de ce que tu leur apportes ?
On a un modèle économique assez ordinaire et classique. Donc, il y a des honoraires classiques.
Classique, et après.
Et une commission, donc la commission classique sur les deals que tu peux être amené à générer, à négocier et à valoriser. Et donc, moi, je m'efforce de faire en sorte que quand tu cumules ces deux, ça coûte beaucoup moins cher par rapport à ce que tu as rapporté.
Tu fais les contrats aussi des consultants pour les chaînes et tout ça aussi ou pas ? Ou alors, par exemple, Sma, il s'est occupé, il a géré tout seul. Sma, c'est plus l'extra. L'extra. Voilà,
exactement, okay, exactement. Et donc, tu vois, Sma, c'est comment
Smile,
c'est pour ça. Comment on va sur les réseaux sociaux, comment on l'accompagne à aller sur les réseaux sociaux et comment on fait en sorte qu'il arrive à avoir une marque forte et générer des revenus grâce à sa marque en dehors des... De son métier.
Je vais te partager une anecdote et je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas parce que je me souviens d'une discussion avec Smile dans les locaux de Bein. On parlait justement de la présence sur les réseaux sociaux et aujourd'hui il y est, mais à cette époque-là il n'y était pas encore et il me disait je ne peux pas y aller parce que moi les réflexions que je peux avoir des fois, je ne serais pas capable de me contenir et je risque de le rentrer dedans. Mmh. Et ça veut dire que j'imagine que sur ce profil-là, il y a eu son chemin personnel, mais toi aussi, il y a ton travail de conseiller en disant s'il se passe un truc comme ça, voilà la bonne chose à faire, voilà la bonne pratique, voilà ce que tu peux, c'est ça, c'est aussi sur ça que t'accompagnes, c'est-à-dire que pas de gestion de crise parce qu'on n'en est pas là, mais un événement contrariant, ce qui de toute façon va arriver sur les réseaux sociaux, comment en termes d'image le gère ?
Ouais. Tu sais, la première des choses qu'on dit à nos clients quand on fait nos formations, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut les accompagner et les former, et la première des choses, c'est quand tu vas sur les réseaux sociaux, prends du plaisir.
Ouais.
Ça reste un réseau social et il faut que tu prennes du plaisir dedans. Donc si tu vas par obligation, ça marche pas, mais si tu vas pour prendre du plaisir, dans le temps déjà tu y restes, et ça c'est quelque chose de très important. Tu te marques quand même sur les réseaux sociaux et il faut y aller pour prendre du plaisir. Et deux, c'est que parfois tu peux prendre des coups, ça fait partie du métier, sauf que c'est mieux de le savoir avant d'y aller plutôt que d'être confronté à la situation. T'es déjà plus prêt psychologiquement à le faire.
La personne qui est pas au courant qu'elle va prendre des coups sur les réseaux sociaux, elle est, je sais pas,
mais il y en a, ils y vont quand même. Tu vois, donc on le fait savoir et après on leur dit beaucoup, tu vois, il faut savoir aussi se détacher d'un réseau social et de savoir prendre du recul. Ça reste à consommer, tu vois, avec beaucoup de parcimonie, et c'est important de prendre du recul, notamment sur certains réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou autre.
C'est du crack,
c'est-à-dire
c'est très facile de dire, il faut de temps en temps. Je pense que c'est tout le monde est addict à ça.
Alors, je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont addicts et que c'est important aussi, tu vois, d'avoir ces discours où tu dois rationaliser ton temps que tu passes sur les différentes plateformes et prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement positives, d'autres qui le sont beaucoup moins, et c'est important d'être informé sur les différentes mauvaises pratiques. Nous, c'est vrai que dans ce cas de figure-là, tout à l'heure, comme tu le disais, c'était important de se dire, à un moment donné, on savait qu'il allait y avoir des sujets qui allaient être un peu plus compliqués à gérer, et quand on le sait, que ce soit sur certains matchs ou sur certains joueurs, tu vois, on s'appelle très souvent pour calmer un petit peu le,
désamorcer,
etc.
Ah ouais, question. Tu gères l'image, ok, mais est-ce que tu gères aussi les réseaux sociaux dans le sens où c'est toi qui tweets ou c'est le joueur qui tweet ?
Alors ça nous arrive de faire de la co-publication.
Et
donc globalement, ça peut arriver que ce soit le client.
Et grosso modo, il dit voilà, moi j'aimerais même parler de ça, tag.
Ouais, okay, et après, nous on accompagne un petit peu sur plus la manière de créer le contenu, le message, la rédaction, etc. Quoi.
Alors j'ai eu monsieur la conscience qui m'a fait un signe qui lui est propre, savoir on a plus le temps, 5 minutes, etc. Mais j'ai quand même
Qu'il est content,
Regarde, il nous fait tellement confiance, Maxime, qu'il a quitté le studio. Tu vois, si c'était pas le cas sur la saison 1, je te le dis.
Ouais.
Mais il y a quand même une question qu'on veut te poser, que je veux vous poser à tous les deux d'ailleurs.
Non, moi j'en ai une avant.
Ah, vas-y, je t'en prie.
Est-ce qu'il y a un joueur là que tu... Je te parle de foot, hein, t'as d'autres clients, d'autres sports et d'autres activités, mais de d'autres secteurs, pardon. Est-ce que t'as un joueur que tu rêverais, mais que tu aimerais, dont tu aimerais gérer l'image?
Je pense qu'il y en a deux. Globalement, en plus, c'est bizarre parce qu'ils évoluent dans le même club. Moi, j'aimerais beaucoup, tu vois, avoir une discussion avec Cristiano sur la valeur travail pour lui et rentrer dans l'intimité de la valeur travail, parce que c'est bien de savoir à quel point ce mec-là travaille, mais c'est quelle discipline il a, quelle hygiène de vie il a, comment il gère les timings de ses heures de travail, notamment dans un métier où tu voyages quasiment tous les trois jours, où il y a des décalages horaires, beaucoup de fatigue. Globalement, c'est... Comprendre comment son histoire en tant que sportif par rapport à la valeur travail, tu peux l'adapter à un acteur, à un entrepreneur, à un boxeur, à différents types d'athlètes. Je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel j'adorerais pouvoir intervenir.
Mais est-ce que tu penses que son image est bien gérée, du coup?
Je trouve qu'il fait des choses remarquables.
Ouais. Okay,
je trouve qu'il fait des choses vraiment remarquables grâce à sa notoriété. Et un autre dans un style totalement différent, mais globalement, j'apprécie beaucoup, c'est Rashford.
Je pense
ce qu'il a pu faire. En gros, globalement, tu vois, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier-là. Et je pense sincèrement que ce sera aussi l'avenir de ce métier-là.
T'anticipe ma question. Vas-y, parfait.
Non, mais c'est globalement. J'avais regardé aussi une interview de Lewis Hamilton qui parlait de ce sujet-là. C'est quand. Quand tu fais ton sport et que tu gagnes des trophées, tu atteins une certaine notoriété et donc ta voix l'écho de ta voix est beaucoup plus forte. Et comment tu utilises ça dans le but d'avoir un impact social et sociétal. Et je pense qu'effectivement, quand tu es Marcus Rashford,
et que tu arrives
à ce niveau-là de sport et que tu puisses utiliser ta voix et ton écho pour avoir un impact social et sociétal dans ton pays et dans l'éducation de ce qui se fait, moi je trouve ça impressionnant. Ouais.
Non, mais Rashford, c'est incroyable. Enfin, tu vois, c'est un sportif qui, pour le coup, a mené des actions politiques qui ont eu des résultats chez son pays. À ma connaissance, c'est sans précédent. Donc, je te rejoins sur ça.
Moi, j'adore cet exemple.
Ça va être un peu chiant, mais il est au-delà, quoi. Le sportif, très souvent, on dit le sportif, ce serait bien qu'il pense à la société. Moi, je pense tout simplement, c'est le citoyen.
Le citoyen.
Ouais. Par excellence, qui sait très bien jouer au foot.
Ouais.
Parce que ça, putain, c'est. Ouais.
Et donc, ma fameuse dernière question d'ouverture. Et d'usage, c'est ce métier, où est-ce qu'il va? C'est-à-dire qu'on en parlait avec Edouard, il y a 10 ans, c'était différent. T'as vu, j'ai dit 10 ans, j'ai pas dit 20.
Si t'as écouté, il y a 4 ans, même ne serait-ce qu'il y a 4 ans, c'était pas ça.
Il a énormément voulu. Moi, j'ai commencé par faire du community management, tu vois. Et je gérais juste les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai plus d'expertise dans ce domaine-là, 4 ans après, tu vois.
Ouais. Et t'es obligé de te staffer pour que ce sujet-là soit...
obligé de te staffer, d'apprendre, etc.
Et donc, où est-ce que tu penses que ça... Jusqu'où ça peut aller, au gré des évolutions technologiques, des évolutions culturelles? Est-ce que t'as une vision? Est-ce que tu dis c'est tellement versatile qu'en fait, ça peut partir dans plein de directions?
Absolument. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de sujets type NFT, métaverse, etc. On ne sait pas de quoi demain est fait. Ouais. On sait juste que ça s'accélère et ça va beaucoup plus vite. Moi, je crois beaucoup au fait que, tu vois, sur les prochaines années, le football, tu vas de plus en plus le consommer, peut-être avec un casque, et tu vas pouvoir avoir accès à Paris, dans ton appartement, dans le 9e arrondissement de Paris ou autre, et tu vas pouvoir être et vivre la même expérience que si tu étais au premier rang d'un match à Bernabéu, tu vois. Et je pense que l'expérience footballistique que tu vas vivre en tant que fan et en tant que spectateur va être en permanence challengée, et les liens entre les émotions que tu vas pouvoir avoir en étant au stade et les émotions digitales seront de plus en plus proches, ce qui peut parfois en plus être inquiétant. Et sur la partie ensuite communication, je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on en parlait sur Rashford avec Edouard, c'est ce côté où je pense qu'aujourd'hui les joueurs, surtout dans le football, ils atteignent une position et une posture et une notoriété beaucoup plus forte, ils sont plus nombreux, et c'est leur capacité à pouvoir mettre ça au profit de l'intérêt général, et à quel point tu peux avoir un impact social, sociétal, que ce soit dans ta ville, dans ton pays ou à une échelle macroéconomique, peut-être même plus mondiale. Et je pense que le sujet des 4-5 prochaines années, c'est à quel point les athlètes peuvent utiliser leur marque, leur voix, leur réseau, leurs compétences financières pour œuvrer et faciliter certaines missions sociales et sociétales sans être dans le schéma, tu sais, classique et ordinaire de la fondation, peut-être même aller plus loin comme Rashford l'a fait. Et j'espère, en tout cas, je souhaite que dans les prochaines années, des Rashford, il y en a plus, qui s'inscrivent sur la durée et qui fassent des choses aussi folles soient-elles que ce que lui a pu réussir à faire. Et moi, je serais fier, tu vois, de pouvoir accompagner un athlète, un de mes clients dans ce domaine-là.
Merci beaucoup de ton temps et de la qualité de cet échange. Et puis, on retrouve Alternative Football au prochain épisode.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.